En ce jour ouvrant les jours ouvrés, j'étais, moi, désœuvré, traînard de fin d'après-midi, tantôt attentif à mes seuls pas, un, deux, trois, comme si leurs empreintes invisibles enchaînaient et esquissaient un glyphe, tantôt traçant de l'œil les contours des halles que je longeais alors, et laissant dériver sur mon flanc gauche l'alignement des cafés, des boutiques et ces barrières mobiles grises, égarées sans raison apparente un peu partout à Paris, qui me faisaient penser à des grilles de radiateurs. J'arrivais au bout de la chaussée, là où elle bute sur quelques marches, comme si elle voulait gagner de l'altitude, mais devait, presque aussitôt, se résigner à s'étaler en une large esplanade. Laquelle dégage, sur la gauche, les abords de la fontaine d'Omée des Innocents, mi-chapelle, mi-édicule, tandis que quelques arcades roulent sous une façade au fond. Je m'immobilisais sur l'esplanade, littéralement déboussolé, aucun des points cardinaux n'exerçant d'attraction particulière ou de répulsion notable sur ma trajectoire. Comme si l'espace était désorienté, décoordonné, et que toutes ces parties égales, plus même qu'égales, interchangeables, finissaient par se fondre dans l'indistinction. Point solitaire sur l'étendue du désert, ou sur l'océan lisse et sans bornes, un voyageur ne verra ainsi que l'invariante souveraineté du vide. Ni oasis, ni île accueillante pour rompre la platitude où il s'est perdu. Et, de toute façon, doit penser ce pèlerin, si jamais s'élève une spirale de sable, se dessine un remous dans le bleu, ce sera certainement une tempête ou un aileron. Pas de quoi se réjouir, donc. Ni vagues, ni dunes autour de moi, seulement le résidu alluvionnaire aux abords des halles. Papier d'emballage, d'éjection canine desséchée, à moins qu'elle ne fût glutineuse et n'appelasse le pétrissage involontaire de la semelle. Je dénombrais aussi un certain nombre de canettes à divers degrés de recroquevillement, mais ne m'essayais pas à répertorier et à déchiffrer l'alphabet aux lettres disloquées, en mikado des mégots. Un joli bleu pimpant s'étendait au-dessus de ma tête et des déchets des humains, rivés par la gravité et la viscosité au sol où ils avaient été jetés. Puis le ciel s'est taché. Je ne bougeais toujours pas, tout entier tendu d'œil, bandé d'esprit, vers ce qui s'empelotait là-haut. Ce squelettait, se membranait. Quelque chose montait, acquérait du volume et du modelé. L'incurvation des contours, avec en dessous la double tige des pattes aux extrémités étoilées, l'extension caudale, la projection du bec, je voyais très franchement un immense oiseau prendre corps et occuper le ciel, la tête pointée vers la Seine, comme une injonction. Docile, je me suis défigé. Traversé la place, j'ai pris le boulevard en direction du fleuve, vers ce qui n'était plus une rumeur, mais une certitude en cette fin de journée d'avril. Notre-Dame brûlait. Pourtant, je n'y voyais que du feu, un monstrueux volatile, et non de la fumée. Deuxième clé. Point n'est besoin d'un œil d'aigle pour repérer la composition ouvrant, à l'extrémité gauche, la série supérieure des bas-reliefs qui courent sur le stylobate du portail central de Notre-Dame, celui du jugement dernier. Logé entre une paire de doubles colonnes et sous les trois lobes d'un arc, comme sous un auvent de pierre, est assise une femme, la dextre mutilée. Mais ni le moignon, ni les poinçons géométriques au-dessus de cette statique scène d'exposition ne détournent l'attention de ce qui, justement, est exposé. Coincé entre la main encore existante de la figure diminuée et la partie supérieure de sa cuisse gauche, une plaque circulaire, à l'évidement superficielle de plat ou d'assiette, offre au regard, dans son cerne, une silhouette animale. La morphologie est incontestablement adaptée à l'élément aérien, le milieu de prédilection ne fait pas de doute, mais elle, bec ou patte, ne suffisent pas à trancher quant à l'espèce.